Frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la fête de l'Épiphanie. Si je ne me trompe pas, il y a un petit village ou une petite ville quelque part au Québec qui s'appelle l'Épiphanie. Mais attention, la fête d'aujourd'hui, ce n'est pas la fête d'un village. Alors, quel est donc le sens de cette fête? L'Épiphanie, à l'origine, avant Jésus, était une fête païenne. Le mot lui-même vient du grec qui signifie « apparition » ou bien « manifestation ». Il y avait épiphanie lorsque le roi visitait un village ou une ville. Le roi qui venait chez les siens apparaissait, se manifestait, se montrait. L'Église a utilisé ce mot pour sa liturgie en voulant proclamer que Dieu venait chez les siens. En effet, à la naissance de Jésus, Dieu apparaît dans notre monde. Dieu se manifeste dans notre monde. Cette fête de l'Épiphanie affirmait aussi un autre élément essentiel de la foi. Dieu s'est manifesté à tous les peuples de la terre et le salut réalisé en Jésus-Christ, il est universel et s'adresse à tous les peuples de la terre, à toutes les personnes de la terre, sans égard à leur couleur, à leur langue ou à leur religion. Le salut est offert à eux tous. Lorsque nous récitons le credo, rappelons-nous, nous disons, l'Église est une, sainte, catholique. Et le mot catholique signifie que l'action de Dieu puis le salut en Jésus, ils sont offerts à toutes les nations. Je me répète, mais je veux montrer aussi qu'on le dit souvent. Et c'est notre foi. La parole de Dieu de ce dimanche met de l'avant la dimension de la lumière. Dans la première lecture, le prophète Isaïe, il nous annonce une bonne nouvelle. Son message s'adresse au long cortège des déportés qui rentrent d'exil. Rappelez-vous, quand Isaïe parle, il parle toujours du peuple qui était en exil, en dehors de son pays, et qui revient chez eux. Alors donc, ce peuple qui avait été déporté par le puissant roi de Mésopotamie, ben il rentre chez lui après des années d'exil. Cette image du peuple marchant vers Jérusalem, c'est l'image du peuple qui marche vers son Messie. Le prophète Isaïe avait dit, « Debout, Jérusalem, elle est venue la lumière. La gloire du Seigneur s'est levée sur toi. » Les nations marcheront vers ta lumière. Les gens de Saba viendront apportant l'or et l'encens. La splendeur de Jérusalem, quand le peuple rentre chez lui, ben la splendeur de Jérusalem n'existe plus. C'était un carrefour commercial, Jérusalem. Mais pendant l'exil, plus personne n'était là, et donc on avait perdu cette splendeur. Mais la richesse de Jérusalem, elle est ailleurs. Elle est en Dieu. Et c'est aussi cette présence lumineuse du Seigneur qui naît, qui illumine la fête de l'Épiphanie. Dieu qui se manifeste, c'est Jésus qui vient dans notre monde. Des siècles après cette prophétie d'Isaïe, des mages venus d'Orient demandèrent où est le roi des Juifs. Ces mages étaient peut-être des astrologues, peut-être des devins ou bien des médecins de l'époque. Personne ne le sait exactement. Ils n'étaient pas des rois, même si on dit roi-mage. Mais ils étaient des personnages assez importants dans leur société pour que Hérode les reçoive en audience. Vous avez peut-être remarqué, frères et sœurs, que les noms des rois-mages n'apparaissent pas dans l'Évangile de Matthieu, ni dans l'Évangile de Luc qui parle de l'enfance de Jésus. On a ajouté les trois noms, Melchior, Balthazar et Gaspard, au VIe siècle. C'est longtemps après, hein? Mais ça vient d'une tradition populaire. En donnant des noms aux rois mages, on voulait faire quoi? on voulait montrer l'universalité de la démarche de ces rois. Melchior aurait été roi des Perses, Balthazar roi des Arabes et Gaspard roi des Indes. Alors quand on dit « tous les rois se prosterneront devant lui », les rois mages, ils symbolisent les puissances de ce monde. Et donc, on faisait référence à la prophétie d'Isaïe puis des psaumes. Les mages étaient des païens. Quand on dit païen, on ne dit pas incroyant, là. Les païens, pour Israël, c'était ceux qui n'étaient pas juifs. Alors, tout le monde, le reste de la planète, c'était des païens, mais pas des incroyants, comme on pense souvent. Alors, ce qu'ils étaient, par exemple, ces mages, c'est qu'ils étaient des chercheurs. Ils étaient des chercheurs qui voulaient surtout découvrir le monde de la transcendance. C'est ce qui est plus grand que nous, la transcendance. C'est ce qui est au-dessus de nous. C'est ce qui nous pousse à partir à sa recherche. Dans le fond, c'est la quête de la lumière et de l'éternel. L'étoile, ça symbolise le don de Dieu en son Fils Jésus, le cadeau de Jésus qui vient chez nous. En se prosternant et en se mettant à genoux, les mages attestaient que l'enfant serait Messie et roi. Et ils présentèrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est la troisième fois que je le dis. Ce sont des biens qui signifiaient les trois dimensions de ce nouveau roi. L'or symbolisait l'appartenance à la royauté. L'encens exprimait la dimension divinité, puisque l'encens, c'est ce que les prêtres offraient à Dieu au temple. Et la myrrhe, c'est ce qui sert au rite funéraire et qui rappelle la dimension mortelle de l'homme. En fait, le récit des mages est la reconnaissance par les grands de ce monde du Messie annoncé par les prophètes. Vous et moi, par notre baptême, nous avons reçu une vie nouvelle. Mais attention, ce don de la vie divine, il est offert à toute personne. Et l'Église n'est pas propriétaire de cette action de Dieu qui agit par son Église. Car Dieu agit aussi à l'extérieur de l'Église visible. Il y a 50 ans, frères et sœurs, nous disions, vous vous en souvenez peut-être, certains et certaines parmi vous, qu'on disait l'expression « hors de l'Église, point de salut ». Alors, il ne pouvait pas y avoir de salut si on n'était pas dans l'Église catholique. Nous affirmions donc que les autres, en dehors de notre Église, étaient damnés et que le salut ne s'adressait qu'à nous. Nous agissions comme des propriétaires de l'action de Dieu, mais nous étions dans l'erreur. Ce que l'on peut dire cependant, c'est que l'action du Christ Sauveur s'exprime d'une manière privilégiée dans l'Église catholique, tant par la parole que par surtout les sacrements. Et c'est pour cela que les membres de l'Église catholique que nous sommes devraient et doivent témoigner du salut universel en Jésus-Christ. Frères et sœurs, ouvrons-nous à l'action de Dieu dans la douceur du bouddhiste, dans la bonté de l'hindou, dans l'accueil du musulman, comme étant l'expression de la douceur, de la bonté et de l'accueil de Dieu. Émerveillons-nous de la charité et de l'espérance des chrétiens protestants, des chrétiens évangéliques. Et surtout, demandons à l'Esprit de Dieu d'ouvrir nos cœurs grands, grands, grands. Amen.